Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès, le podcast où des personnes viennent me raconter leur vie, tout simplement. Je suis Fabrice Florent, je suis votre hôte et cette semaine, je vous propose de découvrir cette discussion avec Yacine Bellous. Yacine est l'un des humoristes les plus doués de sa génération. Il joue d'ailleurs son spectacle en ce moment à La Nouvelle Scène. Je vous mets les liens dans les notes du podcast. Allez le voir, vraiment, vous ne serez pas déçus. Avec Yacine, on parle de ses souvenirs d'enfance, de petits ponts massacreurs, vous comprendrez en écoutant, et de ses tournants qui l'ont amené à monter sur scène, puis à faire du stand-up. On parle aussi de cette aventure avec Eddie Izzard, son idole, qui l'a poussé à jouer 60 minutes en anglais chaque soir au Festival d'Édimbourg, alors qu'il parlait à peine la langue de Shakespeare un an et demi auparavant. Un immense merci vraiment à Yacine pour sa gentillesse et sa disponibilité. Vraiment, ce mec est d'une gentillesse absolue. Vous devez le découvrir si ce n'est pas encore fait. Si vous découvrez ce podcast, merci de vous y abonner sur votre appli de podcast préféré. Et vous pouvez aussi écouter Histoire de succès sur Spotify, sur Deezer et sur YouTube. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. D'ailleurs, venez donc prendre 3 minutes pour venir me dire dans les commentaires de cet épisode sur YouTube ce que vous en avez pensé. Je suis toujours preneur de retour des auditeurs et des auditrices. Merci d'avance pour votre écoute et rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode puisque vous pourrez me retrouver dans vos écouteurs tous les jeudis matins à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast préféré. Mais j'en ai assez dit, je vous laisse en compagnie de Yacine. Tu disais que tu voulais t'acheter ça, c'est ça ?
Ouais, je vais. En fait, c'est le Zoom, Super Zoom. D'accord. Mais moi, pour le moment, j'ai juste mon iPhone et j'ai acheté un micro-cravate pour le mettre, pour le brancher, qui m'a coûté à peu près 14,80€. Et ça marche des fois. Et des fois, ça marche. Et surtout, donc, on m'entend pas, moi, quand je parle. Là, il y a deux micros, c'est super. Donc, c'est une des prochaines étapes. Parce que je parle fort pour que le micro-cravate capte mon truc. Et tellement j'avais pas de matos, dans le prochain épisode, il va y avoir une recette aveugle. C'est-à-dire qu'il va y avoir une recette où on sait pas les ingrédients qu'on mélange. On dit juste, on va mettre un peu de ça, 100 grammes de ça, mélanger, voilà.
Pourquoi ?
Parce que ça me faisait rire. Et alors donc, on va faire une recette où tu sais pas c'est quoi les noms des ingrédients, mais tu sais ce qu'on veut préparer. Et
hein ?
Ouais, bah tu verras, faut écouter. C'est un concept chelou.
C'est parce que t'as lancé un podcast ?
J'ai lancé un podcast.
T'as lancé ou c'est Navo qui a lancé un podcast ?
Alors, c'était une idée de Navo, il m'en a parlé il y a 10 ans.
Ah ouais, vraiment ?
Ouais, je te jure. On faisait une émission de radio. Alors tout a commencé. Donc là, on a commencé.
Ah ouais, okay, moi
c'est à l'américaine. C'est à l'américaine.
Moi, j'enregistre. Hein,
ok, c'est parti. Il y a 10 ans. Ils font beaucoup ça aux États-Unis. Ils commencent à parler chill. Il y a 10 ans, on a fait une émission de radio avec Dedo, Shirley. Et Navo a rejoint le groupe au bout de la deuxième ou troisième émission parce qu'on cherchait des auteurs.
C'était sur le Move.
Qui était sur le Move.
Le samedi matin.
Oh là là.
J'écoutais. On se connaissait
carré, quoi. Mais c'est fou.
On se connaissait app et on se connaissait pas. Et en fait,
Et le Comedy Club Live,
ça me faisait tellement rire.
Et ben, nous, on s'éclatait à l'écrire, mais c'était très dur. Et Navo était vraiment une force de proposition hyper impressionnante parce que il nous a aidé à trouver des concepts, à structurer l'émission, etc. Donc, on a tout de suite réussi à trouver une bonne dynamique, tu sais, et à faire des petites rubriques et tout ça. Parmi les rubriques, il y avait des interviews rigolotes, il y avait des sketchs, on invitait des stand-up à jouer, il y avait des musiciens, dont par exemple Rachita, qui là sort un album, alors je sais
c'est
pas
vu
d'où, c'est incroyable. Ouais. Et on a eu plein de musiciens super cool, genre Stromae, tu sais, des gens qui commençaient, et à partir de là, on la faisait chaque semaine l'émission, mais au bout d'un moment c'était trop épuisant, donc on a arrêté cette émission parce qu'on écrivait tout le temps, et Navo me disait, mais pourquoi tu fais pas une autre émission ? Je dis, je sais, j'ai pas d'idée d'émission, tu vois, je sais pas trop quoi faire. Il dit, mais tu devrais faire une émission qui s'améliore au fur et à mesure, comme ça t'as pas de pression, tu commences avec peu et puis au fur et à mesure t'avances. Et lui m'a dit, je te dis ça juste pour que tu fasses quelque chose, quoi, que tu ne restes pas à rien faire. Et moi, je dis, ouais, je vais y penser. Ouais. 10 ans plus tard, je vais le voir, je lui dis, tu sais, en fait, là, j'ai envie de plus m'exprimer, de plus participer à ce qui se passe dans nos métiers, quoi, que ce soit les podcasts ou la vidéo ou la création. Ouais. Et donc, je reprendrai bien la proposition que tu m'as faite il y a 10 ans. Et il s'est levé, il est parti, il a dit, je prends mon kit, ma libre, on le fait tout de suite, quand on n'attend pas, on s'assoit, on le fait, parce que sinon, tu vas pas le faire. Et ça s'est passé comme ça. C'est pour ça qu'il explique dans le premier épisode. Donc voilà, on est en train de parler, je suis chez moi avec Yacine et voilà.
Je vous mettrai tous les liens si vous voulez aller écouter ce podcast. Si vous aimez l'univers de Yacine, c'est un bonbon. Ça dure quoi? 10 minutes, un quart d'heure?
Ça dure 10 minutes. Ouais, ça dure 15 minutes les premières, les autres c'est 11 minutes. Et mon projet c'est vraiment que ce soit de mieux en mieux. Ça s'appelle Cette émission est de mieux en mieux. Et le but c'est que l'émission soit de mieux en mieux au fur et à mesure. Et je promets à chaque fois, je vais le faire, que ça s'améliore. Parce que j'ai vu beaucoup de podcasts qui se lancent. J'adore les podcasts, j'adore les écouter. J'y participe souvent. J'ai participé à beaucoup de podcasts et je trouve ça génial. Mais il y a un truc un peu absurde qui manque des fois et j'aimerais bien essayer de le proposer. Mais très vite, ça va être un podcast d'interview comme on a l'habitude, hein, je pense. Mais pour le moment, c'est un podcast un peu chelou, donc c'est à écouter.
Mais en fait, si à chaque fois tu rajoutes une question en plus de nouvelles, si tu veux, si tu gardes l'idée.
C'est ça. Très bien. C'est pourquoi l'idée de la recette, c'est que en fait, dans le deuxième ou le troisième, j'ai été très vite. Parce que je me suis retrouvé dans un événement avec des youtubeurs, des gens qui ont l'habitude de s'exprimer sur Internet. Et donc, je leur ai demandé des conseils tout simples et j'ai eu plein de guests d'un coup. Et je me dis, ah là là, c'est dommage parce que là, je me suis vraiment mis dans une situation difficile parce qu'il va falloir que je fasse mieux prochaine fois. Donc là, j'ai fait des guests, j'ai posé des tas de questions, une petite interview et une recette de cuisine. Il y a très peu de recettes de cuisine à la radio et donc j'ai trouvé ça dommage.
Vous êtes donc avec Yacine Bellous. Voilà.
Bonjour.
Vous écoutez depuis tout à l'heure, mais vous le savez sans doute parce que vous avez cliqué sur ce podcast et donc vous avez vu le titre.
Ah, si tu m'appelles Mysterio, c'est rigolo, mais.
L'invité mystère.
L'invité mystère.
Les mystères sont de mise.
Les mystères sont de mise.
Je suis ravi de t'avoir, Yacine.
Moi, je suis content d'être reçu par toi ici, c'est super.
Je pense qu'on n'a jamais fait cette interview-là. On a fait plusieurs interviews que je linkerai sur Mademoiselle, ouais. Où à chaque fois, c'était plutôt pour des occasions, des événements.
Ouais.
Je me souviens qu'on avait fait une vidéo sur ton jeu vidéo.
Oui.
Au théâtre de 10 heures.
Ça, c'était super parce que grâce à vous, ben, parce que la borne a disparu maintenant. Ouais. Le jeu n'est plus là. Mais grâce à vous, on a ce témoignage-là.
C'est trop cool. Et on avait fait une autre interview avec Eddie Izzard. Je sais pas si tu te souviens.
Je me souviens très bien.
Quand Eddie commençait à jouer en France.
Ouais.
Et que tu l'avais un peu kickstarté en France.
Ouais. À mon niveau international. J'ai mis la puissance de toute ma fame française à sa disposition et il m'en remercie encore. Non mais oui, mais c'était génial parce que vous étiez l'un des premiers, on va dire, je sais pas comment vous vous appelez, mais premiers médias qui accueillaient Eddie et qui faisaient confiance à son français, parce qu'il y a beaucoup de gens au tout début qui avaient des doutes en 2011. Effectivement, mais c'est normal. On dit bah voilà, c'est un étranger qui vient jouer en français. Les gens s'attendent à ce que la plupart des artistes étrangers viennent jouer en anglais et tout le monde est d'accord et tout le monde les accueille comme ça. Eddie avait décidé donc de se lancer le défi de jouer en français. Et c'était vraiment cool, quoi. Il y a beaucoup d'autres médias qui l'ont accueilli après vous, mais vous aviez dès le début fait confiance,
bien,
quoi.
On est bien prêts, c'est plus. En fait, enfin, moi, je me suis surtout fié à toi.
Ouais.
je sais que t'es drôle. Tu m'as dit, Eddie, c'est vraiment le gars le plus drôle. Je le connaissais pas avant, en fait. Tu vois, j'avais jamais entendu parler d'Eddie Izzard avant.
Je suis content,
me le présentes.
Du coup.
Alors qu'il a une carrière folle avant qu'on se rencontre.
Ouais, c'est ça. le gars a juste. Il a fait le Madison Square Garden. Ouais. Il a fait le Wembley, donc c'est des endroits assez grands. Faut du monde, hein. Faut une bonne billetterie, faut un bon site internet pour les réservations, parce qu'il y a du monde. Mais en plus, il est gentil. C'est un bon gars, quoi. C'est vraiment une personne. C'est une personnalité positive, je pense, du monde de la comédie.
On reparlera un peu après de ton envie d'internationaliser ton humour.
Oui.
Mais je disais que j'étais très content de te recevoir parce qu'on n'a jamais fait cette interview-là où j'ai envie que tu me racontes ta vie.
Waouh, c'est ça, cette interview, c'est génial. D'accord.
T'avais pas compris.
Longue histoire. C'est une longue histoire. Non, mais moi,
on
je te fais
temps,
confiance
hein,
aussi.
Tu vois. Une petite heure, hein,
oui,
tu vois.
Oui,
c'est
y a
bon,
aucun
hein.
problème. Moi, je te fais aussi confiance à chaque fois. Donc, sur les interviews, j'y vais vraiment sans réfléchir du tout. Donc, c'est pour ça que je savais pas. Alors. Ça va être long. Non, alors, mais tu me poseras des questions. Je sais pas ce que tu veux savoir.
En fait, je voudrais savoir, par exemple, à quoi il ressemble Yacine quand il a 7 ans.
Apparemment, j'étais un enfant extrêmement... Ouais, parce que j'ai très peu de souvenirs de mon enfance.
Okay.
J'ai pas beaucoup de souvenirs d'enfance parce que j'étais... Je pense que j'étais un peu différent des autres petits parce que moi, par exemple, j'ai jamais aimé le foot. Et le gros délire, c'était Olivier Tom et jouer au foot. C'est-à-dire entre 7 et 10 ans, ta vie sociale, c'était le foot. Tu vois, c'était vraiment... Il n'y avait pas de compte Instagram. Les gens s'en foutaient. Fallait savoir si tu savais faire des passes.
T'as quel âge, Yacine, aujourd'hui ?
Moi, j'ai 37 ans. Ouais. Je vais avoir 38 ans très bientôt.
Bravo.
Et merci beaucoup. Enfin, j'espère que je vais les avoir. Et... j'espère, tu sais, on y croit vraiment. On touche du bois sur sa tête. Ouais. Non, j'étais chelou, je pense. J'étais pas chelou, méchant, mais j'étais très... apparemment, j'étais marrant. Je faisais beaucoup de blagues. Mais il m'appelait l'intello. Il m'appelait Yacine l'intello à la cité. Je sais pas pourquoi.
Parce que t'as grandi.
J'ai grandi dans deux cités, celle de mes parents à Bobigny et la cité de ma grand-mère à Aubervilliers. J'étais gardé par ma grand-mère. Moi, j'allais à l'école à Jules Vallès à Aubervilliers, qui est donc école primaire qui était pas dans ma ville de résidence. Donc il fallait que ma mère m'emmène à l'école et le soir venait me chercher parce que mes deux parents travaillaient. Voilà, pour donner la situation. Donc moi, j'étais pendant mes après-midi dehors avec les enfants qui habitaient dans ce regroupement d'immeubles et donc ça jouait vachement au foot. C'est pour ça que je disais c'est rigolo, j'ai jamais aimé le foot et donc j'étais un peu, j'étais pas associable,
t'étais un peu ostracisé,
j'étais un peu sur le téco et je me refaisais des potes avec tout ce qui était les mangas, les jeux vidéo, etc., qui sont arrivés un peu plus tard.
Mais donc, en fait, quand tu dis que t'as plus trop de souvenirs, t'as pas des souvenirs marquants quand même de ton...
Si, j'ai quelques souvenirs marquants, mais je saurais pas les...
Les marquer.
Bah, en fait, je saurais pas quels sont les souvenirs intéressants, pas intéressants. Je me souviens des premiers moments, tu sais, d'injustice, d'arnaque incroyable. Je me dis, mais c'est trop pas juste. C'est impossiblement pas juste ce qui se passe. C'est horrible.
Comme quoi?
Une fois, on m'a filé un frisbee. En fait, il y a. Alors, je vais te donner la chute. Tu vas comprendre le pourquoi. C'est ma première arnaque que j'ai vécue, la première trahison. Il y avait un mec qui était plus grand que moi qui m'a filé un frisbee. Quand je l'ai pris, il s'est séparé en deux. Et je comprenais pas, tu vois, parce que je pense que j'avais genre 6 ans et demi, 7 ans. Je comprenais pas la situation. Et un mec plus grand qui arrivait et qui dit putain, ouais, tu l'as cassé et tout. Et moi, je dis ah, non. Et je l'ai tellement pas cassé. Et tout le monde est là, ouais, mais t'as vu, il est petit et tout, c'est pas sa faute. Et en fait, le mec plus vieux m'a filé un frisbee qu'il avait lui-même pété, reconstitué juste en le collant.
Ouais.
Il me l'a donné pour. Il avait imaginé un stratagème pour ne pas souffrir de sa faute, me faire porter le chapeau. Et en sachant que j'étais un enfant, que j'allais esquiver le mec plus grand qui n'allait pas me frapper ou me faire du mal. Parce que j'étais un gosse. Mais moi, j'étais en mode, mais oh le bâtard! C'est ouf, mais à 7 ans, impossible. Parce que moi, je suis un introverte. Je sais pas parler. En général.
Je sais pas, c'est très dur pour moi de m'exprimer en général.
C'est très marrant, on va en reparler de ça.
Mais il y a beaucoup d'artistes qui sont très introvertis. C'est très logique. C'est très logique. Je peux l'expliquer de façon très logique. Il y a beaucoup de gens qui savent extrêmement bien s'articuler, mais qui ne savent pas s'exprimer. C'est très différent comme domaine de cognitif, je pense, dans ton cerveau. Et en gros, donc j'étais dégoûté, j'étais là, oh le bâtard. Mais en fait, c'était plutôt malin, parce que personne n'a souffert, mais il m'a mis dans une situation où j'aurais pu me faire défoncer, parce qu'il n'y avait pas tellement de règles. Les balayettes partaient très très vite. Hein. Non, il n'y avait pas tellement ce climat. Heureusement, moi j'ai grandi avec des oncles, et donc dans la cité dans laquelle j'étais, tout le monde savait à quelle famille j'appartenais. Et donc ma famille, elle était respectée parce que des oncles avant moi se sont beaucoup, beaucoup frités et j'appartenais à une famille qui faisait peur à beaucoup de gens et en disant, bah voilà, si on sait que lui, si on l'embrouille, on va avoir plusieurs personnes qui vont venir dire qu'est-ce qui peut être, c'est à quel sujet. Donc moi, j'ai grandi vraiment dans un monde de paix et de joie parce que mes oncles se sont frités leur mère pendant des années, quoi. Voilà. Ça, c'était un peu le climat de mon enfance à Aubervilliers. Mais je suis très content. Enfin, j'habite toujours à Aubervilliers. Je connais plus personne là-bas. Mais
tu veux dire que tous tes potes d'enfance sont partis?
Ouais, il y en a plein qui ont déménagé parce qu'on a tous vieilli. Et puis à la trentaine, des fois, tu fais une famille, puis tu changes de ville, puis voilà quoi.
Et toi, t'es toujours là-bas?
Moi, je suis toujours là-bas.
T'aimes bien?
J'aime bien. C'est compliqué des fois parce que il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'habitants. Tu sais, c'est comme Paris, beaucoup d'habitants. Et en ayant voyagé, ben, je me suis rendu compte qu'il y a d'autres villes où il y a beaucoup moins d'habitants. Quoi. non, mais sérieux, ça paraît bébête un peu de dire ça, mais en fait, le luxe de l'espace, c'est quelque chose auquel maintenant je sais que ça existe. En fait, avant, j'étais là, hey, Paris, c'est trop bien, il y a tout et tout. Moi, je suis pas loin de Paris. En 30 minutes, je suis à Paris. Je fais, oh, trop bien les transports. Vive la ligne 7, c'est trop chouette, tu vois. Mais en vrai, en allant dans d'autres villes, il y a d'autres petits conforts qu'on oublie, qu'on a. On peut, le fait de se déplacer sans stress. Paris, c'est stressant quand même. Mm-hmm. Je veux pas dire du mal, tu vois. J'essaye de me calmer sur rager sur Paris, parce qu'il y a une période où j'étais là, Paris, c'est nul.
Ah, je me souviens.
Ah ouais, quand je suis revenu de l'étranger, j'étais en colère, hein, j'étais furieux. Mais sur 1000 trucs, là, ça va mieux quand même parce que j'ai relativisé, mais. Mais quand tu vas à l'étranger, que t'es tellement bien accueilli, bon, bien sûr, t'es un touriste, mais au-delà de ça, t'es accueilli de par ton identité, t'es accepté, on te considère vraiment différemment qu'ici. Des fois, c'est pas facile quand tu reviens, puis après, tu te réacclimates, puis tu te rappelles que, oui, dans toutes les villes, il y a des bons et des mauvais côtés. Et comme les personnes, c'est Navo qui dit tout le temps ça, le défaut de ses qualités. Donc, c'est un équilibre, c'est un yin et yang. Mais, en vieillissant, je crois que je suis moins intéressé par la folie des fêtes et du « Oh putain, il y a 1000 concerts par soir, je peux sortir et traîner jusqu'à 6h du matin » que par « Bah en fait, j'aime pas quand les gens me poussent maintenant, ça me saoule. C'est parce que j'ai vieilli, gars. Tu vois, j'ai vieilli. J'aime pas quand on me pousse.
» On te pousse souvent ?
Dans le métro, gars. Ah ouais ? Je suis petit. Il y a un problème avec la petitesse. On respecte pas les gens petits. Moi, on me pousse en permanence. Je suis obligé de mettre des mises à l'amende de regard, de faire gaffe, de... Donc je fais très attention moi quand je me déplace à pas pousser les gens. Les gens petits, enfin moi je pense, hein, peut-être il y aura des contre-témoignages qui disent voilà on est petit, on va bien. Mais les gens grands, costauds, s'en battent les couilles. Je suis obligé de pousser moi des gens des fois pour sortir. Dire excusez-moi mais je dis fort pardon, excusez-moi.
Pourtant t'as une voix qui porte.
Voilà. J'essaye, mais après je peux, ça fait peur aux gens aussi des fois les gens qui parlent dans le métro parce qu'ils ont pas l'habitude. Tu sais Paris on est genre. Le métro, c'est un endroit dangereux, donc tout le monde se regarde, tout le monde fait attention. Et quand tu parles, tu brises le silence d'un endroit un peu stressant, quoi. T'es dans Resident Evil et tu parles. Tu vois, tu dis, excusez-moi. Donc moi, j'essaie de le faire en chantant. Mais pardon. Tu vois, je fais des petites chansons.
Alors que tu pourrais faire des blagues en plus.
Ouais, mais les gens, ils captent pas les blagues. Faut aller, c'est dans le métro, c'est pas l'endroit des blagues. Moi, j'arrive pas en tout cas. J'arrive pas à faire des blagues de gens. Justement, introverte. J'arrive pas à faire, alors, hey, Titi, bouge ton cul, et oh. Et alors, et attends. Tu vois, j'arrive pas.
Pourquoi tu dis que, en fait, tu dis que t'es introverti. Alors, je peux comprendre dans la vie, mais sur scène, tu dis qu'il y a une différence entre s'articuler et s'exprimer. Alors je peux bien le comprendre pour les artistes qui sont très visuels, par exemple, je sais pas, tu vois, les gens qui font du cirque, qui font du... Bref, tu vois. Mais toi, ton média, c'est le langage.
Ah oui, alors j'essaye d'expliquer ce que je pense. Peut-être ouais. J'ai tort. Okay non, mais... Je sais pas, c'est ma théorie.
Ouais.
Je pense que on peut apprendre à articuler et à avoir de la rhétorique, à parler et à dire, voilà, je sais comment raconter une histoire ou bien raconter une blague. Et avec le temps, de plus en plus, la raconter de mieux en mieux, cette blague, cette histoire. Si tu me demandes de me raconter la journée d'hier, peut-être que je vais mieux te la raconter que quelqu'un qui n'a pas l'habitude de s'exprimer.
Je crois que oui.
Tu vois ce que je veux dire ? C'est parce que ça fait longtemps que je le fais. Donc par la pratique, tu apprends à bien raconter des choses. Et donc ça, je pense que c'est accessible à tous. C'est comme un sport. Mais le fait d'être gêné, par l'idée d'exprimer ses opinions ou de s'exprimer ou d'exister, c'est quelque chose qui est en rapport avec la psychologie des gens. Il y a des gens qui sont pas du tout gênés. Il y a des gens, ils vont péter dans une pièce, tu vas l'entendre, tu vas dire pourquoi t'as pété, parce que j'ai envie de péter. Et tu es choqué, tu vois. Moi, ça m'est arrivé. Il y a des gens qui rotent, qui pètent, qui s'en battent les couilles de ce que les gens pensent. Moi, je suis pas de cet acabit. Et donc, du coup, je suis très vite gêné, je suis très vite intimidé, mais ça, depuis que je suis tout petit. Parce que voilà, c'est la vie. Enfin, je sais
ça,
pas.
Ça devient d'où, tu penses ?
Aucune idée. Faudrait peut-être que, en faisant une thérapie, j'arriverai à comprendre exactement. Mais je pense que c'est un caractère. Je pense que dans ma petite enfance, mon caractère s'est développé comme tout le monde. Puis il y a des gens, ils sont tout terrain. Puis il y a des gens, ils disent, oh, faut pas embêter, faut pas gêner. Moi, j'ai beaucoup été élevé par des parents qui me disaient d'être poli tout le temps, de faire attention. De, tu vois, on était vraiment très courtois. On devait être courtois parce que justement, on vivait dans des endroits un peu durs. Donc fallait être courtois. Après, quand je dis dur, c'est tout le monde a des difficultés dans tous les, je sais pas, il y a des gens qui vont être vivre dans des petits villages de 10 habitants, peut-être c'est dur, j'en sais rien. Mais nous, c'était bien, on nous disait voilà, faut faire attention aux autres, on est nombreux, enfin voilà quoi. Donc il y a des difficultés à certains aspects, puis il y a d'autres qui étaient des facilités merveilleuses. Habiter dans la ville, nous moi j'avais j'ai jamais eu de problème d'argent, on n'a jamais eu de problème de pour se nourrir ou tu vois ce genre de choses. Mais il y avait le truc de faut être poli et puis cette atmosphère qui pouvait être un peu violente par certains aspects, on avait ce côté de rigolade et de politesse pour contrebalancer cet aspect qui pouvait être violent, soit psychologiquement, soit des fois physiquement aussi. Parce que moi, dans mon adolescence, le collège dans lequel j'étais, il était très violent. Mais après, bon, bah, je l'ai pas si mal vécu, mais il était quand même très violent.
Tu te tapais ?
Moi, je me battais pas, je sais pas me battre, je me suis jamais battu. Je sais pas me battre encore. Je peux mettre des petits coups de pression, des petits coups de CP, mais vite fait. Et j'ai toujours eu de la chance, dont avoir un ami yougoslave dès 14 ans qui faisait 1m80 parce qu'il est rentré du bled en étant un géant et qui était très gentil. Qui souvent me défendait ou gueulait pour moi, tu vois, parce qu'on est tout le temps entre potes. Donc il y avait. Puis j'ai toujours eu des bons copains. J'ai toujours eu des potes. Et je les remercie s'ils écoutent ce podcast, parce que le monde du collège est un peu un monde de Far West. Quand t'as 12 à 14 ans, t'es vraiment pas mature. Il y a aucun objet de maturité dans ton esprit qui te dit c'est pas cool de défoncer des gars juste parce que tu les aimes pas ou juste parce que t'as des problèmes chez toi. Donc tu sais pas encore que c'est parce que ton père il est con ou parce que t'es stressé. Parce que j'ai su après d'autres histoires de gens qui étaient méchants. Et en fait on m'a dit après non mais lui il était méchant parce que
il reproduit.
J'ai fait, ah merde. Tu vois, sauf que je m'en foutais. J'ai eu vraiment, j'étais à la fois ah merde et il y a une autre part de mon cerveau qui dit mais je suis désolé, il a fait le mal.
Ça se fait pas quoi.
Tu vois, ouais, c'était pas gentil. Tu vois, même si même il a eu des problèmes et tout dans son univers personnel familial. Donc moi j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance parce que j'avais de la famille autour de moi. Donc je savais que si j'avais un problème, je pouvais appeler à l'aide un problème en tout cas, une bagarre, un truc comme ça. J'étais terrifié souvent au collège parce qu'il y avait de la violence, notamment il y avait un truc qu'on appelait ça va revenir un instant.
Je te vois battre du pied là. Musique d'ascenseur.
Les petits ponts massacreurs. Est-ce que tu connais les petits ponts massacreurs ?
C'est du foot les petits ponts ?
Alors les petits ponts c'est du foot, c'est quand la balle passe entre les deux jambes du joueur.
Du joueur.
Nous il y avait un truc qui s'appelait les petits ponts massacreurs et on en a parlé avec Navo qui connaissait aussi. C'était rigolo de l'expliquer à des gens qui connaissent pas. Nous, moi, je croyais que jusqu'à il y a 3 semaines, on en a parlé à un anniversaire de copains.
Ouais.
Il y avait Navo et on vient du même département.
Ouais.
Jusqu'à il y a 3 semaines, je pensais que le monde entier jouait au petit pot massacreur. Petit pot massacreur, c'est t'as une balle de tennis, on avait souvent des balles de tennis, ou une balle de foot, ou n'importe quel objet comme des canettes écrasées avec lesquelles tu joues au foot. La canette, le ballon, la balle passe entre tes jambes. Tous les gens qui jouent au jeu te sautent dessus pour te frapper de façon absolument sans vergogne, sans limite. C'est juste de la violence organisée. C'est trouver un moyen. Tu sais, c'est comme il y a des jeux à boire. Il y a des jeux pour boire de l'alcool.
Oui.
Là, c'est un jeu pour frapper les gens qui est organisé pour ça. Et en fait, on te dit.
Mais pourquoi tu joues alors ?
Mais tu joues pas des fois.
Hein ?
En fait, t'es là, tu parles avec tes potes.
T'es
dans la cour, t'as les jambes écartées, il y a une canette qui passe, tu te fais défoncer par tous les gens de la cour.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Voilà, ça c'était le quotidien, c'était chaque jour.
Waouh.
Moi, les premières semaines où je suis arrivé, il y a des gens qui se posaient des lignes d'hommes, c'est-à-dire ils se mettaient 6-7 personnes, ils traversaient la cour en diagonale, en ligne, et les gens qui le voyaient, ils les défonçaient, mais en marchant, c'est-à-dire ils marchaient, tu vois. Et
il
croisait quelqu'un, toi tu savais pas, t'avais pas encore ton cartable de primaire, tu sais pas, moi je savais pas, moi, je savais pas, j'avais aucune idée. J'ai eu de la chance parce que je me suis jamais fait vraiment martyriser, mais voir cette violence, savoir qu'elle est potentiellement possible, c'est quelque chose qui est stressant. Et le stress d'un enfant de 12 ans, moi les premières fois où j'étais vraiment stressé dans la vie, j'avais pas envie d'aller à l'école, c'était à cause du collège. Donc du coup maintenant je comprends, si tu veux, quand on me dit il y a de la violence au collège, il y a des choses qui sont stressantes et tout, ça me fait un peu rigoler parce que c'est violent. Je me rappelle de ce que j'avais vécu et que j'en riais à l'époque et que vraiment c'était tellement ouf. Tu sais, c'est comme des nouvelles tellement chaudes que t'en ris, quoi. Tu vois? Mais je suis sensible aux histoires de ces trucs-là, quoi. Quand les gens me racontent leur enfance.
Ce qui est fou, c'est que c'est une culture en plus. C'est-à-dire que c'est pas juste de personne à personne, parce que ça, en général, ça se passe. Non. Tu vois, le harcèlement scolaire, ça se passe un peu comme ça. C'est-à-dire, ok, t'as un bully et t'as une victime, quoi. Tu vois, non, c'est de one to one, quoi.
Non, mais mon collège, le head bully, c'était classique, quoi. C'était classique shit, quoi. C'était vraiment la base. Non, mais c'est pour ça que, en fait, des fois, quand on parle de ZEP et quand on parle de collège difficile ou de lycée difficile, je comprends, les gars. Parce qu'en fait, t'as du mal à expliquer à quel point c'était chaud. Et les gens, ils comprennent pas. Parce qu'ils se disent, mais oui, mais toi, tu les vois avec tes yeux d'enfant. Mais même avec, on les met des adultes dans ce cas-là. Mais les gars, ils iraient en tôle. Enfin, ou en tout cas, on pourrait porter plainte assez facilement. Parce que vraiment, la violence du truc, et non-stop, ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que c'est toute l'année. Et il y a des nouveaux jeux, il y a des nouveaux trucs, il y a des gars qui se faisaient défoncer, soulever pour aucune raison. C'était random. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je pense, j'essaierai de voir mes parents, je veux étudier à la maison. Mettez-moi Internet, je vais étudier à la maison, il n'y a pas de problème. Et je pense que, intellectuellement, j'étais un tout petit peu particulier parce que j'aimais pas les jeux de groupe, j'aimais pas les trucs de groupe, donc j'étais particulier, je pense. Je dirais pas bizarre, mais j'étais un peu dans ma petite bulle, j'étais introverti, donc moi j'étais dans un mode j'aime bien les mondes imaginaires, j'aime bien les mangas, j'aime bien regarder les émissions à la télévision, les nuls, les trucs rigolos. J'aimais bien m'échapper là-dedans, j'aimais bien les jeux intellectuels, mais j'aimais pas les jeux physiques. Et puis la violence, personne n'aime ça. La personne qui dit ouais, moi j'aime bien me battre, j'aime bien me faire entourer par sept gars et me faire balayer.
Je pense qu'il y a des gens qui aiment la violence, hein, sinon il n'y en aurait pas.
Ouais, c'est vrai.
Parce qu'il y a forcément à un moment donné un meneur. Alors il y a forcément des suiveurs, si tu veux, notamment dans ce groupe de petits ponts massacres. Mais il y a quelqu'un qui a inventé ce jeu à un moment donné en se disant ok, c'est cool, et en fait on va faire ça. Forcément.
Ouais. Mais il y avait un truc encore plus marrant, c'est que des fois il y avait des petits ponts, il y avait des gars costauds dans la cour. Il y avait des mecs qui savaient se battre, tu vois, qui chopaient un petit pont, personne sautait sur. Parce que les mecs, tu sais, ils essayaient. Ils faisaient genre, oh, tu sais, ils chauffaient. Hein. Et les mecs, vraiment, ils avaient la technique. La technique, c'est vraiment, le premier qui me touche, je le fume. Et donc, personne voulait être le premier. Mais c'est une bonne technique. Oui, c'est une technique à comprendre, tu vois, en cas de fin du monde. C'est vraiment, c'est en cas d'attaque en groupe. Il faut vraiment cibler une personne, pas essayer de se défendre sur un groupe, cibler une personne. Et avec l'instinct grégaire, vous, je sais pas ce qui se passe dans le crâne des gens, mais ça fait hyper peur en fait, parce que tu dis mais je veux pas être cette personne. Je sais pas, vous êtes sept, vous allez me défoncer, mais il y en a un, il va prendre pour vous tous. Et lui, ça va être un one to one. Pendant que je vais le frapper, lui, vous allez être autour de moi, mais lui, il va être pas bien demain. Et donc, et ça, en étant petit, tu fais mais oui, c'est vrai. C'est incroyable, en reparlant avec toi là, tu vois, je me rends compte qu'il y a énormément d'éléments sur la dynamique sociale que t'apprends au collège. Parce que c'est un monde où il y a moins le maître, ta classe, tu vois, t'es plus livré à toi-même, t'es plus libre. Et cette liberté-là, il y a des pièges dedans. Donc il y a plein de choses qui se passent dans la cour des collèges.
Comment t'as la sensation avec le recul que ça t'a marqué, toi? Ce collège violent, etc., dans le métier que tu fais aujourd'hui de faire des blagues?
Je sais pas, franchement, je pense que je sais pas si ça m'a marqué, mais ça m'a marqué sur la violence en général et le fait de savoir dans quel game tu te places. Est-ce que toi t'es viriliste en mode j'adore me taper, j'aime bien, c'est une façon de m'affirmer, tu vois? Ou si t'es plus un gars qui traînait avec les mecs qui aiment dessiner, tu vois. Moi, j'étais avec les gars qui aimaient bien dessiner. Et dans les gars qui aimaient bien dessiner, il y en a qui savaient se taper, tu vois. Donc, ça nous permettait d'être un peu legit dans la cour. Et puis moi, j'étais marrant et gentil. J'ai toujours été plus... Enfin, j'ai l'impression, je sais pas, on sait pas si on est gentil, mais il y a des gens qui m'ont rendu des services. Soit de... Un jour, je me suis fait voler un jeu vidéo. Genre, ma première année, j'avais ramené un jeu vidéo. J'avais 12 ans. Je me fais voler mon jeu vidéo. J'étais dévasté. Parce que il y a tout le truc de, maintenant je comprends pourquoi. À l'époque, tu sais pas pourquoi t'es submergé par tes émotions, t'as envie de pleurer, tu trouves que c'est pas juste. Mais c'est parce qu'il y a cet aspect de vol de ton intimité. C'est quelque chose qui est, les jeux vidéo, c'était un des remparts de joie dans la vie. Et il y a quelqu'un qui te vole ce truc-là, sans vergogne. Et puis, il y a le fait d'être, de pas, la responsabilité d'avoir un objet précieux par rapport à tes parents. C'est-à-dire que tu vas rentrer chez toi, on m'a volé un objet précieux, alors qu'on s'en bat les couilles en vrai. Mais toi, t'as l'impression qu'on t'a volé un truc, que tu t'es fait victimiser, que t'as pas été à la hauteur de la responsabilité du truc. Et donc, j'étais dégoûté, puis j'en parle à un mec, qui était un gars qui était respecté un petit peu dans le collège, tu vois. Mais j'en parle pas pour me plaindre. Il voyait bien que j'étais juste dégoûté. Et c'était un mec qui dit, bah alors, ça va? Et il avait un an de plus. Et je lui dis, non, on m'a volé mon jeu vidéo et tout. Et j'étais vraiment, mais tu sais, on me volerait, genre, chez moi, une caisse aujourd'hui, je m'en battrais les couilles plus que ce jeu vidéo à l'époque. Tu vois, j'aurais une voiture qui coûte 25 000 euros. Je me dirais, bah, ok, il y a des vols, tu vois, mais j'ai.
Ouais, c'était plus symbolique.
C'était incroyable. C'était fou. Et lui, il comprend, parce qu'il a le même âge que moi, et il me dit, attends, bouge pas. Et lui, il connaissait tous les mecs. Il a été faire une enquête. Une heure après, le jeu était de retour. Et il m'a dit, t'inquiète. Mais je pense qu'il a dû mettre des coups de pression, mais de cow-boy, de Sofiane, tu vois, de huche-huche à des gars. Et lui, juste, il savait. Il dit, mais le gars, il est gentil. C'est pas bien. Pourquoi voilà, quoi. Je sais pas comment. Et je pense pas que ce soit lui qui me l'ait volé, parce qu'il me l'aurait pas volé in the first place. Mm-hmm. Tu vois, mais il a été voir le réseau, les gars. Il dit, bon, s'il y a du chinage, il y a trois gars à aller voir. Il leur a posé la question, certainement, je sais pas. Mais il m'a aidé, quoi. Et c'est un truc qui, c'est un souvenir que j'ai, qui est marquant. Parce que je me suis dit, mais en fait, même si tu peux faire, ben, il y en a qui choisissent de pas faire. Lui, il peut faire. Il peut clairement faire des trucs pas bien. Et il a choisi de pas faire. C'est quelque chose qui est important.
Il fait encore mieux même, puisqu'il répare.
Voilà. Il aide, il répare. Et c'est cool, tu vois. Et j'aime bien ce gars-là, parce que vraiment, c'est un des premiers gars avec qui j'ai pris des décisions dans ma vie. Je me suis embrouillé avec lui en primaire. On était potes, on a toujours été potes. Encore aujourd'hui, je l'avais croisé il y a quelques temps. Il s'appelle Saïd, il est cool. Je me souviens d'un truc. On faisait de la bagarre en primaire. Et c'est vraiment une décision que j'ai prise à ce moment-là. On se battait. C'était une des rares bagarres que j'ai eues, mais c'était pas une vraie bagarre, c'est plus du, tu sais, de la lutte.
Ouais.
Et je le faisais tomber. En fait, je menais, clairement, parce que bah, moi, j'étais plus gros que lui, donc je menais, et tout sec. Et il se relevait tout le temps. C'était relou, en fait. Et je me suis dit, bon, t'as deux choix. Soit vraiment, tu lui fais mal. Tu sais, tu trouves un truc, c'est facile. Enfin, il y a moi, c'est parce qu'à un moment, il est par terre. C'est quand t'es petit, t'as moins, je sais pas comment dire, on est mignon, mais on est aussi cruel, tu sais. On a moins le côté, tu vois, je dis, bah là, c'est la bagarre. On est dans les chevaliers du Zodiac, tu gagnes. Donc, c'est la bagarre.
Tu lui fais les points de Pégase, quoi. Allez,
voilà. Hop, ça part. Et non, mais on se poussait juste. Et moi, j'étais juste plus lourd que lui. Parce que quand j'étais petit, j'étais en surpoids. Donc, j'étais juste plus lourd. J'avais pas de technique. C'était pas du jiu-jitsu brésilien des Gracie. J'avais aucun MMA skills. Franchement, là, c'était juste, je le pousse, il tombe, quoi. Il s'est relevé trois fois. Et donc, je me suis dit, bon, soit tu lui fais vraiment mal, ou soit, bah, tu tombes. Et la bagarre, elle s'arrête. C'est pas moi qui ai déclenché la bagarre. C'est lui qui voulait tester, tu sais. Et je suis tombé volontairement par terre, en faisant, t'as gagné. Et j'ai abandonné juste pour arrêter cette bagarre. Parce que je dis, mais elle n'a aucun sens. J'étais pas en peine. Je me souviens très bien de cette bagarre. J'étais ni en peine, ni en, j'avais pas peur.
Juste à lâcher
prise. Je pleurais
pas.
Je dis, mais on va arrêter cette bagarre. Ça n'a aucun sens. Et je devais avoir, 8 ans. Et je me suis laissé tomber, j'ai dit ok, c'est une décision que j'ai prise. Et je me souviens, et je suis plutôt du genre à essayer, pour l'aspect global de ce qui va se passer dans la situation en mode méta, éviter de m'embrouiller avec des gens, pour que ça n'a aucun sens de choisir un combat qui a un sens, de pas m'embrouiller pour, et de surtout ne pas avoir le, essayer de pas trop avoir l'aspect putain gagner, c'est ça le but. C'est plus le côté oh là là, ça sert à rien.
Pour revenir un peu à comment t'as fait toi pour te rendre compte un jour que t'étais marrant.
Mais en fait, moi j'ai comment toujours aimé la rigolade. Moi j'ai toujours aimé les gens marrants. Ouais. J'ai toujours aimé faire des blagues. Et donc moi j'adorais ça, les blagues. Et en fait, je me suis pas rendu compte que j'étais marrant. Je me suis vraiment pas rendu compte. Je pensais pas être marrant. Hein. Non, moi je pensais pas.
Bah, tu faisais des blagues et tu voyais bien que les gens riaient.
Je faisais des blagues, les gens riaient, mais tout le monde était marrant. Je pense que tout le monde était marrant à l'époque. Franchement, au collège et tout ça, puis il y a des gens encore plus marrants que moi que je connais, qui sont bien plus drôles que moi.
Peut-être parce que t'étais entouré que de gens marrants.
J'étais Ouais, alors je pense que les gens marrants traînent avec les gens marrants.
Voilà.
Parce qu'on n'aime pas s'ennuyer. On aime bien les gens qui ont vite des blagues. Et j'étais extrêmement fan de plein de gens. Je suis toujours très fan de gens, mais qui sont pas des stars. Qui sont très très drôles dans la vie, tu vois. Et qui sont hilarants, avec qui tu traînes et tu t'amuses bien. Puis tout le monde est un mec marrant de potes avant d'être quelqu'un qui joue sur scène. Tu vois ce que je veux dire? Et alors, le but. Pour moi, c'était pas du tout d'être marrant, mais par contre, j'ai réussi à faire du théâtre grâce à une prof qui s'appelle Serpentine Tessier. Je me suis souvenu de son nom il y a pas longtemps, qui m'a vraiment fait mon premier cours de théâtre et dans lequel je me suis senti, c'est devenu mon foot. Moi, j'étais nul au foot.
T'étais au collège, c'est ça?
Ouais, non, c'était au lycée.
Au lycée.
Et là, je me suis dit putain, j'ai de la valeur. J'ai eu de l'approbation de la part d'adultes et on m'a dit c'est bien ce que tu fais. Et donc j'ai continué là-dedans et après ça j'ai eu d'autres profs de théâtre qui m'ont dit ah non c'est bien ce que tu fais et donc moi j'étais content parce que je pouvais retirer du plaisir de l'approbation de la part d'autres gens adultes.
Et c'était quoi, c'était tu jouais des pièces, c'est ça?
Je jouais des pièces de théâtre, ouais. On faisait des textes, on lisait des textes, des fois c'était des petits bouts de texte collés les uns avec les autres et puis des fois c'était des vraies pièces et donc moi j'adorais le théâtre et je faisais des blagues, les gens riaient et j'ai commencé à écrire des petits bouts de trucs et après j'ai rencontré Cédric, un pote à moi qui est réalisateur qui s'appelle Cédric Ido, son frère c'est Jackie Ido qui joue dans Inglourious Basterds.
Ouais.
Et Cédric m'a dit viens on va faire de l'impro et tout et j'ai rencontré plein de potes avec qui on a fait une troupe de théâtre qui s'appelle la DGPTTM, des gens pas très très marrants mais qui font ce qu'ils peuvent et c'est pas facile tous les jours. Et avec eux on a fait une pièce de théâtre qui a changé ma vie clairement parce que on a décidé de créer une pièce de théâtre à nous. Sans autorisation d'adulte préalable. C'est-à-dire qu'avant, moi, j'avais toujours des adultes qui me lançaient des défis, qui me disaient « Fais ça !» Et là, on a dit « Tu sais quoi, on a trop rigolé. » Et j'ai fait de l'impro avec Papy, Déclic Théâtre, qui était...
Papy qui est aujourd'hui une figure très connue.
Mais voilà, pour moi, Papy, c'est le... Je sais pas comment dire, c'est le l'ange du bien, c'est le... Je sais pas comment dire, c'est le gars qui a initié... C'est le starter d'un million de carrières. Il a donné confiance à des tas de gens. Dans Dragon Ball, il y a un moment où il y a Kaios qui touche la tête de mecs qui révèle leur pouvoir, qui fait sortir leur pouvoir de leur force intérieure. Je sais plus, c'est sur Namek. C'est un gars sur Namek qui touche des gens et il fait sortir le pouvoir qu'il n'avait pas, tu vois. Mais Papy et Nono, des gens du Déclic Théâtre, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont donné la foi. Ils donnent la foi dans des gens. C'est ce que moi, j'essaye de faire avec Première Fois. J'essaye de rendre en disant...
Alors, Première Fois, qui sont des soirées.
Qui sont des soirées.
Pour expliquer un petit peu, parce que
bien
tout le monde ne connaît pas forcément.
Qui sont des soirées que j'ai créées en 2014 avec un mec qui s'appelle Emilien Bernaud, où on encourage des gens à jouer des textes qu'ils n'ont jamais joué avant. Et on prend des gens qui sont jamais montés sur scène aussi, mais majoritairement, c'est des gens qui ont l'habitude de jouer, et ils montent sur scène, et ils font du stand-up qu'ils n'ont jamais fait. Blanche Gardin a fait les premières, Kian, Navo, Bérangère, toi, t'as fait un texte aussi.
Ah, oui.
Plein de gens qui n'ont pas forcément l'habitude de monter sur scène ont joué, mais c'est un grand mélange, et c'était l'idée de « on peut le faire ». Tu peux le faire et puis pour les artistes qui sont chevronnés, l'idée de se reconfronter à la peur, de proposer une nouvelle chose complètement neuve. Parce que sinon on fait, comme dit Douli, des sandwichs à la merde, c'est-à-dire des blagues qui marchent et au milieu des blagues qui marchent, on sait pas, on teste, et re des blagues qui marchent. Donc c'est le moyen de s'assurer que on est paré à éviter l'humiliation. Alors que là, c'est dire, il est possible d'avoir une énorme humiliation, mais on va créer des conditions dans lesquelles l'humiliation est gérable et accepter le fait que ça ne fonctionne pas, que des fois, ça marche pas la vie. Et le faire dans de la bienveillance. Et du coup, ça a marché, cette histoire, et ça fait longtemps qu'on le fait, mais je pense que c'est la soirée la plus bienveillante de Paris, parce que les gens à l'intérieur de cette soirée, le public sait et donc se relie à l'artiste par leur propre humiliation à eux et disent ok, on n'a pas envie d'infliger ça à quelqu'un, donc même si c'est pas marrant, on va faire allez, ça va, ok, on va pas rire mais on va dire, blague suivante s'il vous plaît monsieur, ou madame.
T'es allé un peu vite, mais en fait t'as expliqué quand t'étais gamin t'es monté sur scène, mais comment tu fais pour passer toi de, ok en fait je suis un môme qui aime bien dessiner et qui aime bien les jeux vidéo, etc.
Ouais.
Alors même si t'es marrant, à venir te dire ok, je décide de monter sur scène, ce qui est quand même un autre truc.
Justement,
quoi,
avec cette troupe de théâtre-là, on a écrit une pièce à nous et ça m'a donné... on a écrit au Quick des 6 routes de la Courneuve. Moi, j'avais un forfait Millennium à l'époque. J'étais un bourgeois. Donc j'avais
c'est quoi le forfait Millennium?
Forfait Millennium, c'est le forfait SFR qui permettait d'appeler tous les numéros SFR.
Tu faisais partie de ces gens qui avaient eu un forfait à
illimité.
Illimité, c'est ça. Absolument.
Mm.
Ils ont arrêté d'ailleurs.
Ils ont arrêté. Non, mais il y avait des rumeurs qui disaient, il paraît qu'ils te rappellent et qu'ils te proposent de l'argent pour acheter ton forfait parce que ça les fait couler. Ça les faisait pas du tout couler. Après, tout le monde a fait illimité.
Ouais.
Et il y avait on se donnait rendez-vous tous les dimanches au Quick des 6 routes. Et il y avait un vigile là-bas. Et le vigile du Quick des 6 routes, en fait, je lui prêtais mon téléphone des fois pour qu'il passe des coups de fil. Et il nous laissait avoir une sorte de bureau. On avait un bureau d'écriture dans le Quick et on prenait tous un softie. Je sais pas si tu te souviens des glaces sorties en étoile.
Ouais.
Et on écrivait pendant 4-5 heures. On faisait des blagues. On écrivait des blagues. Et on a écrit, répété et joué une pièce en 9 mois. Ce que moi, et la pièce est chambée, vraiment elle est super, ça a changé ma vie je pense, parce que ça m'a dit c'est possible d'écrire, c'est possible de partir de rien, d'écrire quelque chose, de le jouer devant des gens, d'avoir du succès. Et le succès de cette pièce, je pense que ça a été vraiment un grand déclencheur pour moi après, en me disant j'ai toujours aimé faire du théâtre. J'ai été un peu instigateur, j'étais moteur aussi, hein, comme plusieurs personnes de la troupe étaient moteurs de ça. Donc on était très contents de le faire, tu vois, mais on a eu beaucoup de chance parce que on nous a ouvert des portes, on nous a acceptés. Donc du coup, je pense que cette idée d'avoir envie de le faire aussi pour d'autres vient de là. On a été à Stein, on l'a joué au Studio Théâtre de Stein, Kamel Warty, c'est des gens qui travaillent encore avec des jeunes aujourd'hui, qui sont dans des collèges, des lycées. Navo, il a aussi été au Studio Théâtre de Stein. Kairon, il a été aussi au Studio Théâtre de Stein. C'est un endroit qui a ouvert ses portes, alors qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils n'ont pas beaucoup de moyens, plus que tous les centres nationaux de France ont jamais ouvert leurs portes, je trouve, à des jeunes générations, parce que cette pièce, on a essayé de la jouer dans plein d'endroits, on a été refusé, quoi. On a été donc on s'est plus senti à l'aise dans le privé. Donc j'ai été dans le privé, dans le one man, dans le stand-up. T'es plus accepté quand tu viens de banlieue parce que c'est privé et que c'est des chiffres qui parlent. C'est pas tu connais Bidule et t'as fait telle école. Et voilà. Voilà comment ça s'est développé chez moi, la possibilité d'une expression.
T'avais quel âge là, t'étais au lycée?
J'avais 19 ans.
Ah oui, donc post-lycée.
Ouais, post-lycée. Alors tout le théâtre, c'était à la fin du lycée. C'était trop bien, entre mes 16 et 19 ans. Et voilà, et avec un mec qui s'appelle Fabrice Melchior aussi, qui nous faisait des ateliers d'écriture qui étaient géniaux. C'est un auteur de théâtre qui est très cool. Et c'est Fabrice qui m'a dit tu devrais faire du one parce que t'es rigolo et que voilà. Et donc moi franchement tu m'aurais dit tu devrais faire du hockey sur glace à l'époque, j'avais tellement besoin d'approbation que j'étais d'accord pour essayer de faire quelque chose dans lequel j'avais un petit talent, tu sais. Mais voilà, c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce truc là
Comment tu fais alors pour arriver de là à... Tu t'atterris chez Jamel, au Jamel Comedy Club?
Ouais, le Jamel, ouais.
C'est parce que ça, c'est quelques années plus tard.
Ouais,
ça,
c'est en 2005. En fait, j'ai fait ma première scène de stand-up en 99 dans un restaurant qui s'appelle... Maintenant, c'est un restaurant coréen, mais le Bec Fin.
Okay.
Le Bec Fin, rue Thérèse, c'est un endroit où il y a plein de gens qui allaient et j'y suis allé parce que j'ai entendu parler. Et j'ai fait des scènes et ça a été un gros bide parce que j'ai joué devant deux personnes qui comprenaient peut-être pas trop ce que c'était le stand-up. Moi, j'ai vu Jerry Seinfeld à la télé, j'ai dit c'est ça que je veux faire.
Ah oui.
Je veux faire lui, je veux être Jerry Seinfeld. Et donc, j'ai écrit des blagues. Les gens, ils écrivaient. Moi, il n'y avait personne qui écrivait des blagues autour de moi. Et j'avais aucun rôle modèle qui me disait que c'était possible de faire ça en France.
Mais t'avais pas Netflix à l'époque.
J'avais ni Netflix, j'avais pas de podcast, j'avais pas YouTube qui me disait oui c'est possible de prendre un micro et de parler. Donc déjà avoir des micros à l'époque c'était chelou. Les gens disaient mais non, on prend pas de micro quand on raconte des blagues. Tu vois, les mecs à la mode c'était Eric et Ramzy, il y avait Jamel, mais Jamel on savait pas qu'il faisait du stand-up parce qu'il disait pas je fais du stand-up. Il faisait 20 minutes de son premier spectacle où il parlait, c'était du stand-up. Et puis après il disait eh, vous inquiétez pas, je vais faire des sketchs. Et ça rassurait vraiment les gens. Parce que nous, moi, je l'ai vu sur le spectacle, t'es là, mais pourquoi il parle? C'est quoi le délire? Non, on comprend pas. Mais juste, il rigole avec la foule. Et on comprenait pas que c'était des blagues de stand-up rodées. On savait pas. Pourtant, on rigolait beaucoup. Donc, anyway, moi, je fais ça, je fais un bide et j'attends, je fais la pièce de théâtre après. Et j'attends longtemps avant de reprendre. Et c'est Jackie, le frère de Cédric, donc, qui était déjà comédien, qui organise des soirées, qui s'appelle les soirées La Famille. Dans ces soirées-là, il y a Alban Ivanov qui vient.
Ouais.
Et à l'époque, il faisait ses premiers sketchs et tout. C'était à l'époque on traînait beaucoup avec. Il y avait un groupe de copains de l'époque, donc c'était Grand Corps Malade et Le Comte de Boudherbala, donc Samy. Donc on était toute cette équipe-là. Mais finalement, on s'est tous plus ou moins perdus de vue après. Samy, il me présente à Kader Aoun, qui est le directeur artistique, enfin le metteur en scène du Jamel Comedy Club. Et je rentre par l'intermisse Non, ça n'existe pas l'intermise.
L'intermédiaire
pas... L'intermédiaire. L'entremise. C'est l'en... J'ai fait un mélange entre l'entremise et l'intermédiaire.
Tout à fait.
Toutes mes excuses au dictionnaire. pardon. Je fais beaucoup de fautes d'orthographe dans la vie et je fais beaucoup de. Non, je suis dyslexique. Des fois, je fais des mélanges de mots, des mélanges de lettres.
La langue française est une langue vivante.
Ouais.
Approprie-la toi.
Donc Samy, voilà, me dit, parce que j'ai fait une première soirée qui s'appelle Comic Street, et je joue dedans, ça se passe bien. Enfin, ma première scène, c'était au Café Culturel de Saint-Denis. Bizarrement, partout où je joue, ça se transforme en restaurant. Donc je pense que Jamel Comedy Club va être un restaurant dans pas longtemps. Le Café Culturel de Saint-Denis, c'est vraiment un endroit qui m'est cher parce que c'est un endroit où j'ai commencé. Ma première soirée, c'était le 27 octobre 2005, c'était le soir des émeutes. Il y a eu 2 morts, et à cause de ça, c'était... Un énorme soulèvement, injustice totale, tout le monde. Donc, 27 octobre, moi, je finis ça. On était un peu flippés, je dois dire, parce que ça brûlait vraiment, quoi. Et ça faisait peur, parce qu'il y avait énormément de policiers. Tout le monde était... Enfin, j'ai vu des scènes de ouf, genre des gens à genoux. Tu sais, les mecs avec les armures et tout, là, ça fait vraiment peur. On n'était pas bien, quoi. Et donc, je suis rentré, c'était le premier soir. Donc, c'était vraiment chaud. Donc mon premier soir, c'était après les émeutes. Et après ça, j'ai fait Comic Street, j'ai fait d'autres soirées et c'était vraiment cool. Maintenant, le Café Culturel n'est plus une salle de spectacle du tout, c'était juste un bar. La première soirée que j'ai fait à Paris s'est transformée en resto coréen. Le Jamel Comedy Club va devenir peut-être un restaurant. La nouvelle scène, dans 5 ans, 10 ans, ce sera un restaurant. Mais voilà, tout ce que je touche se transforme en restaurant. J'ai réussi à jouer, ça s'est bien passé, ça m'a encouragé, j'ai continué. Je te jure, c'est aussi bête que ça. De mois en mois, je me disais, bon, voici le prochain projet stand-up. Il y a aussi un projet qui sort en radio pour réussir à faire de la promotion. J'ai fait l'émission de radio. J'ai rencontré plein de potes. De plus en plus, j'avais des amis, on va dire, dans ce monde de one-man show. Et ça fait 10 ans qu'on fait ça. Donc maintenant, c'est la même chose. Quand je fais une première partie, c'est bien souvent parce que je connais l'artiste. Et ben, comme dans tous les métiers, on a un réseau de connaissances et qui est aussi un réseau qui nous permet de continuer ou d'être encouragé. Des fois, on a le moral à zéro, puis tu vas parler à un ami qui te dit « mais c'est con, reprends ton spectacle, fais ci, fais ça ouais. ».
Pourquoi t'es... Alors là, donc tu reprends à la nouvelle scène,
ouais.
Début octobre, pour 3 mois.
Ouais.
Ton spectacle est autoproduit Donc, t'es tout seul ?
Ouais, je suis tout seul. J'ai vraiment très envie d'être indépendant parce que j'ai travaillé avec des productions à une période et ça peut forcément très très bien passer. Mais après, c'est la faute à personne. Tout le monde est... Voilà, je suis dans l'histoire aussi. Donc, tout le monde est différent, je pense. Et moi, j'ai vraiment cette envie de montrer ce que je fais un peu différemment. Donc là, j'ai choisi de faire ça pendant 3 mois tout seul. Et je suis très content parce que je m'organise un petit peu comme je veux. Je peux me permettre d'aller faire une semaine à Berlin, par exemple. Là, il y a personne qui va venir me voir en disant ça n'a pas de sens. Moi, ça a du sens pour moi d'aller jouer à l'étranger. Et donc, ça nourrit ce que je fais beaucoup en français. Et c'est hyper important pour moi de le faire.
Comment t'en es venu justement parce que donc ça fait un petit moment depuis début...
Depuis
donc,
2013 à peu près.
C'est ça
ouais.
Est-ce que c'est Eddie Izzard vraiment qui t'a donné cette envie-là?
C'est totalement Eddie Izzard.
Okay, d'accord.
Ça s'est passé comme dans les films. En fait, moi Eddie Izzard, c'est mon idole absolue. Le style d'humour que je fais sur scène est hyper inspiré d'Eddie Izzard. Il y a vraiment une continuité filiale que j'assume de ouf. J'adore ce gars, il est vraiment très positif. Et...
il est beaucoup pour expliquer un peu aux gens qui connaissent pas, mais et peut-être qui te connaissent pas, qui t'ont jamais vu sur scène. Allez voir Yassine, allez voir Eddie Izzard. En fait, vous êtes beaucoup dans, vous racontez beaucoup d'histoires et vous êtes beaucoup dans l'imaginaire et vous faites beaucoup de dialogues aussi entre deux, notamment vous faites beaucoup ça entre
Absolument.
Deux personnes.
En fait, on fait des dialogues, tout le truc des petites séquences et des petites séquences absurdes dans lesquelles il y a plusieurs personnages. Et moi, avant de voir Eddie Izzard, je faisais des choses avec plein de personnages, mais moi, il y en avait trop. Je faisais 4-5 personnages et j'étais amateur, donc je me perdais, je ratais les séquences, c'était nul. Les gens rigolaient pas parce que il y avait trop de mouvements. Et Eddie Izzard, en le voyant, j'ai dit, mais j'ai appris et j'ai compris comment séquencer des lignes de dialogue. Tu sais, c'est comme quand t'écris un scénario finalement. Si tu mets 14 personnages sur une page, comme dans Game of Thrones, on se perd dans les noms, on sait pas qui fait quoi, et j'étais brouillon. Donc, dès mes premières scènes, j'ai toujours été avec cet aspect-là. Et les gens qui me connaissent d'avant comprennent pourquoi Eddie Izzard, c'est mon héros. Beaucoup d'humoristes qui me connaissaient d'avant, comme Navo ou Kairon, peuvent comprendre que j'étais... que j'ai pu être aussi touché par ce gars-là. Et Eddie, il parle aussi de système. Il s'adresse au système. Il parle pas de choses très anecdotiques comme j'ai vu, j'invente n'importe quoi. Tiens, j'ai vu Marine Le Pen à la télévision. Vous avez entendu ce discours ? Eh ben, dis donc, je vais vous dire des blagues. Je suis pas très content. Ça, c'est vraiment très 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 pointu sur l'actualité. Vous avez vu ce qui se passe avec les gilets jaunes et hop, 2-3 minutes sur les gilets jaunes en expliquant l'actualité. Lui, il parle des systèmes et il joue aussi avec comment l'humour marche. C'est-à-dire qu'il joue avec les règles. Et ça, c'est toujours quelque chose qui m'a plu. Jouer avec les règles, avec le méta. Par exemple, j'aimais bien dire « j'ai pas d'intro » dans mon premier sketch que j'avais fait au truc. « J'ai pas d'intro ». Et ça, c'était une blague trouvée avec Yazid, qui était le metteur en scène des premières soirées qu'on faisait, qui s'appelait « Barre de rire ». Je lui dis « je veux vraiment pas faire d'intro, j'ai pas envie de faire une intro genre « bonjour, comment allez-vous » parce que c'est trop classique. J'avais dès le départ envie d'être très différent. Et j'ai toujours cette envie, mais des fois elle est débile, des fois, tu sais, c'est comme cette émission est de mieux en mieux, c'est de faire un podcast qui est un peu différent, alternatif. J'ai toujours eu cette envie d'alternatif, et Eddie est très alternatif, il fait de l'humour alternatif, et donc c'est pour ça qu'il me plaît beaucoup. Donc lui, Eddie arrive, il va parler de la comédie en général, il va parler d'un thème, mais il va le déconstruire, il va parler de systèmes globaux, genre, je sais pas s'il existe des systèmes globaux, je sais pas s'il y a un bon accord, mais genre la guerre, il va parler de la colonisation avec le principe des drapeaux et expliquer comment la colonisation ça fonctionne. Mais il va pas forcément parler d'un événement particulier, il va résumer tout un cours d'histoire sur 200 ans de colonisation en à peu près 5-6 minutes, c'est extrêmement drôle.
Et ton envie à toi de te dire, pardon. En fait, non mais c'est pas grave.
Je suis désolé, je digresse arrête, tout le temps.
Non mais tu digresses pas, t'es en train de parler des 10 ans.
Ça s'est produit avec lui parce que quand je l'ai rencontré, on a sympathisé. Moi j'ai vraiment apprécié le gars parce que je le connaissais pas en tant que personne. J'imaginais qu'il était très gentil. Mais on sait jamais, il y a plein de gens que j'ai rencontrés qui n'étaient pas du tout à l'image qu'il représentait sur scène. Et ouais. Finalement, lui a été encore plus cool que ce qu'il représentait sur scène parce qu'il est très généreux, très gentil en général. Et je me suis retrouvé donc à parler avec lui parce que, donc moi je te dis, je suis très introverti. C'est lui qui va vers les gens, donc c'est super chouette. J'ai pas eu à faire d'effort. Il a été très gentil avec tout le monde, puis il a parlé avec moi. Et voilà, on est devenu un peu camarades de loge parce que je jouais dans le même théâtre que lui au théâtre de 10h. Puis il me dit... en gros, il va faire l'Olympia et je fais sa première partie parce que il avait besoin d'une première partie à ce moment-là. Il me connaît moi en tant que comédien. Il avait vu mon spectacle. Il me propose de faire la première partie et on a un rendez-vous dans un café pour parler du temps que je dois faire. Tu sais, c'est toujours comme ça les premières parties. Ouais. Tu dois organiser le temps que tu fais, les thèmes, tu vois, parler pour pas mettre l'artiste principal dans l'embarras. Ouais. Imaginons que quelqu'un fasse un sketch sur les roses et que toi tu fais bah non moi j'ai 30 minutes sur les roses, je vais faire que ça. Ouais. Le mec dit ah c'est un peu chiant parce que je vais en parler aussi, est-ce que tu vois, c'est de la politesse, c'est normal, tu vois. Lui il m'a dit tu fais ce que tu veux parce qu'il dit il dit c'est un gars qui est tout terrain, il a c'est vraiment, j'apprécie ce gars parce qu'il a pas de crainte. Il a pas la crainte de la compétition des autres, il encourage les autres. Il me dit tu fais le temps que tu veux et tu fais ce que tu veux. Moi, je veux que tu t'amuses. Alors déjà, c'est très gentil de dire ça quand t'es en première partie. C'est vraiment très gentil. T'es pas obligé. Et après, il me dit, pourquoi tu joues pas en anglais? Ton humour, je pense, ça passerait bien à l'étranger. Et moi, je dis, ben non, mais mon anglais, il est nul. Il dit, viens, on parle anglais. Et on change. On était en train de parler français, on parle tout de suite en anglais. Il parle en anglais avec moi et il me fait une sorte d'évaluation. Il fait une sorte d'évaluation de mon anglais. Il dit, je te comprends à peu près. Je pense que t'es à 30%, mais que si t'avais un petit peu plus confiance, tu serais à 50% fluent. Et il me dit bouge pas, je reviens. Et donc il parle, il part. Tu sais, il dit faut que j'y aille, je dois, je reviens. Et il s'en va. Et puis bon bah moi je dis putain je suis cool. Toi j'ai eu un compliment sur mon anglais. Mais en gros c'était pas un compliment, c'était encourager les gens,
ouais.
Encourager à dire aie confiance en toi. Et puis il m'a donné 2-3 techniques que je peux donner là s'il y a des gens qui y sont intéressés.
Ah,
il y a une technique qui est très intéressante, c'est que tous les mots à plus de 3 syllabes en anglais sont exactement les mêmes. Que les nôtres, comme diagonal, c'est le même. Mais tu le dis diagonal, tu vois. Tu veux extraordinaire, c'est la même chose. Extraordinary. Et l'accent, ce n'est pas très grave. Ce qui est difficile, c'est les stress. C'est là où tu pousses les mots et tout, mais les Anglais, ils comprennent. Et surtout, moi, ce que j'ai appris, la technique, c'est l'arrogance. N'ayez pas peur de dire aux gens que vous ne savez pas très bien parler anglais. et ils adorent vous répondre. Mon anglais, mon français est pire que le vôtre. Ils répondent tous ça. C'est vraiment un cliché. Tous, ils disent. Je lui dis ouais, mon anglais est pas bon, bah mon français est pire. Ce qui est pratiquement une insulte en fait, hein, parce que en gros, ça sous-entend que si le mec il sait dire que bonjour, au revoir, et que toi tu sais dire bonjour, au revoir, merci en anglais, bah ça y était mieux. Donc en gros, il faut pas hésiter à dire aux gens soyez gentils, je parle pas très bien anglais, et les mecs ils vont être adorables. Donc Eddie me donnait ces petites techniques là, cool. Il revient de son coup de fil et il me dit c'est bon, tu fais Édimbourg dans un an et demi, j'ai vu avec mon manager, est-ce que t'es d'accord? Je t'ai organisé le festival d'Édimbourg Fringe, c'est le plus gros festival international anglophone du monde entier, ouais, de comédie. Ouais. Et il me dit je te l'organise, je trouve quelqu'un en tout cas pour t'aider. Je te mets en contact et tu te débrouilles et tu le fais, mais il faut que là t'as 0 minute en anglais, faut que dans 16 mois t'aies 60 minutes tight. Et il me dit tu le fais ou pas? Et donc il y a une demi-seconde de, et après je dis je réalise juste que j'ai l'idole de ma life en face de moi qui me propose une opportunité hyper positive, hyper bienveillante, hyper dure aussi mais bienveillante, et je dis mais bingo, de ouf, on y va, je le fais de ouf, avec plaisir. Et ça a été extrêmement difficile, c'est hors de tout propos, c'est à dire que c'était avant que y ait d'autres artistes qui fassent des heures. Je sais que Mustapha El Atrassi, que j'aime beaucoup, a fait des shows en anglais de grande qualité. Il a été à Los Angeles, il a joué au Comedy Cellar. Sami, le comte de Boudarbala, également. Il a fait aussi des shows de grande qualité. Mais ce que je devais faire, moi, comme défi, c'était tenir une heure pour 26 shows tous les jours. C'est-à-dire être sur un mois, tous les jours, devant des anglophones, des Écossais, des Australiens qui viennent là-bas. Et donc, c'était vraiment un très gros défi pour moi. Et j'ai réussi à le faire. Pendant un an et demi, je vais peut-être essayer de monter un making-of parce que j'ai plein de films. Je me suis filmé dans tous les sens pendant que je le faisais. Et c'était incroyable. Et donc, du coup, j'étais terrifié et c'était génial.
Et waouh, comment rebondir?
Pardon, je suis désolé parce que peut-être c'est très long. Et c'est
pas
très
long
blablabla
du tout, parce qu'en fait, c'est hyper intéressant. Voilà. J'ai l'impression que, en fait, Eddie Izzard, il t'a mis un coup de pied qui t'a ouvert une autre porte, parce que
totalement.
Là je te vois, donc on va en reparler rapidement, mais en fait je sens que t'es reparti sur les réseaux sociaux, comme tu disais tout à l'heure, que
ouais.
J'ai toujours trouvé dommage que tu sois pas bon entre guillemets dans ce truc là et c'est pas un jugement, mais c'est juste pas de prod et t'es autoproduit.
Tu peux totalement me juger parce que je suis vraiment pas bon là-dedans,
personne qui
et j'essaye d'apprendre en fait pour comprendre comment ça fonctionne et juste proposer quelque chose qui soit cohérent avec moi.
Ouais.
C'est très dur.
Mais
parce que je vois des gens, et j'ai beaucoup d'admiration pour eux, qui n'hésitent pas. Et j'entends d'autres qui me disent j'ai peur de me montrer. Et je comprends cette peur. Et c'est la peur du jugement, c'est la peur de pas bien faire les choses. Et c'est une peur que tout le monde a. Les réseaux sociaux, c'est intéressant, mais c'est aussi addictif.
Mais moi, ça, c'est autre chose. Mais en fait, moi, je suis super content parce que ça veut dire que quasiment tous les jours, en fait, j'ai une story de Yacine qui raconte un petit peu sa vie. Et en fait, moi, ça me fait beaucoup de bien. Je pense que je suis pas le seul. Tu vois, j'aime beaucoup ce que tu fais. Et en fait, c'est trop cool de te voir raconter. Là, t'es allé jouer à Berlin. Et t'as raconté tous les soirs, tu prenais une petite vidéo de toi en train de jouer. Tu expliquais que tu passais d'un truc à l'autre. Ça donne des... En fait, ça te propulse, enfin ça nous propulse dans ton univers et dans ton quotidien. Alors sans pour autant, voilà, je suis en train de boire un café et tout, mais là t'es vraiment dans l'aspect professionnel. Je trouve que c'est trop bien, quoi.
Moi, j'aime beaucoup partager. En fait, l'amour que j'ai pour, on va dire, les petites scènes, les petites soirées, tu vois, j'adore ces gens. Ils sont cool, ils organisent des trucs. Des fois, souvent, ils gagnent zéro. Et en Allemagne, il y en a plein, et ça me faisait plaisir de montrer ça aux Français parce que c'est fun d'aller à Berlin. Mais je vais là-bas pour Wedge. Et le but, c'est d'aller dans un maximum de soirées. Et pour qu'on comprenne pourquoi c'est intéressant, je voulais montrer les décors différents. Et voir tous ces décors différents qui s'enchaînent, ça peut montrer l'intérêt qu'un stand-up a à aller dans plusieurs soirées d'affilée. C'est ce qui est en train de se passer à Paris. Il y a de plus en plus de clubs, de soirées. Tout le monde court partout. Alors je voulais le montrer. Et Eddie Izzard, oui, il m'a ouvert juste le chakra de « fais confiance ». Et c'était très marrant parce qu'on en rit souvent quand on a l'occasion de se parler, parce qu'il est toujours très sympathique et voit toujours les comédiens qu'il rencontre dans chaque pays. Il y a des gens qu'il rencontre en Allemagne, il va faire un dîner avec eux, etc. À chaque fois, il me dit, tu te souviens que moi, j'ai été le voir jouer en allemand. Moi, je l'ai vu faire une heure et demie tout en allemand. C'était incroyable. Le truc qui m'a donné de la force, parce qu'à un moment donné, j'ai eu peur. 5-6 mois avant, j'avais une demi-heure maximum de stand-up en anglais. J'avais 30 minutes. Et il n'y avait pas beaucoup de soirées et, pour travailler.
Il n'y a pas beaucoup de soirées anglaises
non.
Dans Paris. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus.
Il y en a quelques-unes, mais il n'y
en a pas beaucoup.
Il n'y en a pas beaucoup. Et j'avais pas grand-chose.
On est nul en France avec l'anglais.
Avec l'anglais, on n'est pas bon. Mm. On n'est pas bon. C'est dommage. Ça va s'améliorer là. Tout le monde parle de plus en plus anglais grâce au streaming. Tu vois. Mais je ne vais pas faire de pub pour je ne sais pas qui, mais tu vois, grâce aux sous-titres, les gens, ils adorent, tu sais, avec les séries. Donc, les gens, ils comprennent mieux l'anglais. Mais les gens de ma génération, on n'est vraiment pas ouf. Et pourtant, il y a 60% des mots anglais, c'est des mots français.
Ouais.
Parce que la France a eu des rois, Guillaume le Conquérant, il a mis à l'amende toute l'Angleterre, tu vois, tout le monde devait parler français dans la cour, donc c'est ouf. Donc en fait, il y a eu
tu disais que t'avais peur parce que t'avais
j'étais terrifié, j'avais 30 minutes et donc je dis à Heidi, écoute, peut-être que, parce qu'au début j'ai fait mes premières 5 minutes et je dis à Heidi, ok c'est cool, j'ai 5 minutes et il me fait bravo. Félicitations, t'as 5 minutes. Maintenant, il n'y a plus que 55 minutes à faire. Et je fais, ok, c'est parti, quoi. Moi, j'étais parti en mode, vas-y, on y va. Et j'ai du mal à créer le reste, quoi. Parce que j'essaie de traduire des bouts que j'ai de mon spectacle. J'essaie de créer d'autres bouts. C'est difficile parce que je dois m'organiser des voyages entiers juste pour ça. Donc, je reste une semaine en Angleterre. Ça me coûte cher pour jouer 3 fois parce que les gens ne me connaissent pas. Ils s'en foutent de moi. Maintenant, j'ai plus de réseau, donc je peux jouer plus. Et donc j'y arrive pas, et arrivé en février je suis en galère, j'ai 30 minutes et Eddie au moment des 5 minutes il m'avait dit tu sais quoi, tu devrais faire 30 et 30 et moi de façon un peu orgueilleuse je dis non, j'ai envie de faire une heure, tu sais j'ai encore un an, il y a moi et quoi, tu vois, tu sais on était genre en octobre, je dis non mais j'ai 11 mois, il y a moyen, tu vois, et en fait j'y arrivais pas, et en février je vais voir je vais voir Eddie en Allemagne jouer, je le vois jouer et je fais ouais peut-être c'est chaud et tout, une heure c'est peut-être chaud. Je pense que je devrais faire 30 et trouver un autre humoriste et faire 30 qui soit d'accord. Tu sais, ça se fait beaucoup les 30-30. Et Eddie me fait, franchement, non. T'as dit, j'ai envie de te donner une porte de sortie, mais gars, je t'ai proposé ça il y a 6 mois, tu vois. Mais il me l'a pas dit méchamment, il m'a dit,
oui.
J'ai envie de te donner, si je te donne une porte de sortie, tu vas fuir.
Ouais.
Je te dis, vas-y, go, tu vas fuir et tout. Moi, j'ai plus envie de te dire, fais ton heure. Vas-y, fais ton heure. Et j'ai dit, ok. Et après, je l'ai vu jouer. Une heure et demie en allemand. Et ça m'a quand même remis les pendules à l'heure sur je parle mieux anglais que lui, il parle allemand. Il a fait rire les gens en allemand. L'allemand, c'est extrêmement compliqué. Et donc, ça m'a... Voir quelqu'un faire quelque chose de bien plus difficile, alors qu'il n'est pas obligé du tout. Il faut comprendre aussi ce qui est important. Ce qu'il dit, Izard, il n'est pas obligé du tout de faire ça. Il pourrait tourner autant qu'il veut. Il n'a vraiment pas de problème. Mais il a choisi ça. Et c'est toujours le truc du choix. C'est quoi ton choix? Et là, j'ai dit, bon, ok, moi, j'ai très peur, mais je vais faire ça. Et je suis parti pour une heure. Et donc, j'étais terrifié. Mais à chaque fois que j'arrivais à tenir une heure, à chaque fois que j'arrivais à aller un peu plus loin, mais il y avait un sentiment de joie et de reconnaissance. C'était même pas de la fierté, genre, j'allais pas voir. Tu vois, c'est l'une des premières fois où j'en parle de ça. Genre, j'ai jamais fait de post ou de montage vidéo pour montrer. C'était il y a longtemps, c'était en 2014. Mais à chaque fois, il y avait un sentiment de joie et de gratitude, mais de moi à moi. Pas de gratitude bizarre. Ouais. T'étais content pour toi, quoi.
Ouais. Et t'as la sensation que ce truc-là t'a débloqué dans ton après, mais à quel niveau?
Ben, en fait, je sais pas ce que ça a débloqué, parce que bon, moi, j'ai eu d'autres blocages après, hein, voilà, hein, mais honnêtement, mais ce que ça a débloqué, c'est que ça m'a donné un petit achievement que maintenant j'ai plus peur de jouer en anglais. C'est que tu me dis, va jouer n'importe où en anglais, j'aurais pas la frousse. Après Édimbourg, pendant 3-4 mois, t'es invulnérable. Parce que t'as fait l'un des trucs les plus durs du monde. C'est clairement l'un des trucs les plus durs. C'est plus dur qu'Avignon, c'est plus dur que... C'est trop dur. C'est chaud de ouf. Mais tout le monde est d'accord que c'est dur. Et donc tous les gens qui sont là sont très positifs.
Ouais.
Ils te soutiennent.
Mm-hmm.
Et ça m'a débloqué l'envie d'écrire d'une nouvelle façon. Et donc j'ai travaillé différemment. Il y a plein de gens qui font Édimbourg. Il y a une artiste qui s'appelle Virginie Fortin, que j'adore, qui l'a fait 3 fois. Et qui est formidable, qui est une Québécoise qui va venir jouer à Paris. Je recommande à 1000%.
Je l'ai vue. Bah, elle est venue au One Match Show, tu sais, voilà. notre scène qu'on a fait. Elle m'a tué.
Moi, je trouve qu'elle est géniale. Faut arrêter de dire tout le monde est un génie, mais j'ai toujours envie de dire Virginie Fortin, c'est un génie. Mais faut arrêter de dire tout le monde dit lui, c'est un génie, machin, c'est un génie. Et voilà. Mais oui, ça m'a débloqué un peu dans le sens. Allez, c'est bien de prendre des risques des fois. Puis après.
Comment tu dis que tu t'as écrit différemment? De quoi? Qu'est-ce que ça a changé dans ta.
Avant, j'étais plus en mode, vas-y, ce qui est marrant, ça me fait rire, j'écris ce qui me fait rire, mais je me rendais pas compte que il est possible de, tu peux blesser des gens, tu peux être très maladroit, tu peux tenir des propos qui peuvent être mal pris par beaucoup de gens. Et pendant le processus de l'Angleterre et de jouer au Royaume-Uni, eux, ils avaient déjà une culture qui était un peu plus avancée sur nous, sur fais attention parce que t'as quand même une part de responsabilité. Donc oui, c'est cool d'être marrant, mais il y a quand même une responsabilité à comprendre sur le texte que t'entretiens. Donc il y a beaucoup de blagues que j'ai retravaillées, que j'ai réévaluées et que j'ai changées au fur et à mesure parce que je me disais, ah oui, sur le coup, moi, je me rends pas compte parce que je suis dans ma position personnel de qui je suis, ça peut blesser des gens ou ça peut être mal pris par d'autres qui sont pas dans ma position, que je peux pas comprendre parce que je suis pas dans leurs bottes, mais que donc il faut être attentif, faut écouter quand les gens te disent. Après, il faut aussi faire la part des choses parce qu'effectivement, si à chaque blague, de toute façon, toutes les blagues, il y aura quelqu'un qui va te dire oui, c'est difficile ou non.
Oui, il y a tout le temps quelqu'un qui peut être blessé.
Il y a toujours quelqu'un qui peut être blessé, mais donc j'ai réévalué ça comme ça et en travaillant avec Eddie Izzard. Et en écoutant sa manière de travailler, j'ai puisé vraiment dans comment tu fais toi. Moi, je suis moins marrant tout de suite maintenant. Je mets du temps à être rigolo quand je travaille un beat, mais quand à la fin il est très marrant, il est très marrant. Et en plus de ça, je sais qu'il est plutôt safe et plutôt positif. J'essaye. En tout cas, c'est le but. Tu vois, le but c'est ça. Donc j'ai 2-3 petits moments dont je suis très fier parce que je les ai travaillés à la base de pas marrant. Ah, ok, allez, on y va. On a jusqu'à... Ah, ça y est, ça s'améliore. Et par le travail et par les bides, voilà. C'est pas parce que je suis du tout... C'est pas une question d'être bon, c'est une question de... Allez, on y va, mon gars. Tu vois, c'est comme refaire une recette plein de fois. Au bout d'un moment, eh ben, ça y est quoi. Tu sais, t'as compris les petits ingrédients.
Merci beaucoup Yacine. C'est quoi ta vie donc là dans les 3 mois à venir tu
dans les 3 mois à venir mon projet c'est jouer donc je joue vendredi samedi. J'ai deux jours donc et le reste de la semaine c'est essayer de proposer aux gens de venir voir le spectacle le maximum. Comme je suis en Indé, j'aurai pas de réseau un peu fou, j'aurai seulement la camaraderie, on va dire, des gens qui me connaissent de l'époque et puis le réseau que j'ai pu monter au fur et à mesure en mode hey, t'as vu, je joue là, est-ce que à ton avis je peux faire une première partie? C'est trop mignon, donc ma vie ça va être fréquenter les potes, jouer dans le monde de la comédie, faire des réseaux sociaux un peu une priorité parce que beaucoup de gens communiquent par ça, puis proposer des petits contenus, des petits trucs rigolos pour que les gens aient envie de venir voir le spectacle pendant 3 mois, ça va être ça mon automne.
Bah écoutez, j'espère que vous aurez été, en tout cas, si vous avez écouté ce podcast avec Yacine, convaincu.
Oui, c'est ça. Convaincu de ne faites pas de petits ponts massacreurs, s'il vous plaît. Si vous êtes des adolescents, arrêtez le cycle de la violence. Et si vous avez envie de rigoler, eh ben venez voir ce spectacle, il est formidable. Si vous avez envie de voir des animaux qui parlent, c'est exactement là où il faut aller.
Exactement.
Je suis quand même le spécialiste des animaux qui parlent à Paris. J'ai ma carte spéciale de spécialiste d'animaux qui parlent.
Vous retrouverez tous les liens de les notes du podcast. Merci beaucoup Yacine.
Merci. Merci. Salut. À toi. Merci à toi vraiment. Merci beaucoup.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.